Bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc l'idée, effectivement, c'est d'essayer de comprendre pourquoi la bière, qui est maintenant partout, hein, qui a eu un... qui a cru de façon exponentielle jusque-là en France depuis les années 85, ne se retrouve pas sur les tables de nos chers étoilés ou même, sans aller jusque-là, dans les restaurants gastronomiques. Donc c'est à la fin un peu ma vision, j'espère qu'il y aura surtout un échange. Si vous aussi, vous avez des pistes, comment améliorer ça, parce que c'est un peu dommage, on a des produits variés, multiples, et puis finalement, on ne le retrouve pas sur le table. Rapidement, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je ne vais pas en faire trop long, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc je suis ce qu'on appelle un biérologue, un zytologue, ou plus généralement un expert en bière. Un biérologue, zytologue sont maintenant inscrits au Larousse depuis 2019-2020, enfin, on va dire. Je suis sommelier bière de Mainz, donc c'est une enseigne allemande qui a fait une formation depuis les années 2004, que je fais aussi maintenant en français, pour professionnaliser le secteur des cavistes, des commerciaux de brasserie, des restaurateurs, des sommeliers en vin qui veulent aussi accrocher une corde supplémentaire à leur arc. Consultant bière, alors consultant bière, je ne suis pas brasseur, donc très modestement, je peux améliorer des recettes, voir ce qui ne va pas, créer des recettes, les améliorer, refaire vos étiquettes, c'est-à-dire avec quelque chose qui va être écrit dessus, qui correspond à la réalité du produit, ainsi de suite. Hein, voilà, donc c'est une aide. Je fais des ateliers pour les particuliers, hein, des ateliers de découverte des bières, des styles, des accords bières aimées, etc. Journaliste, ou on va dire journaliste gambrinal, hein, j'ai pas ma carte de presse, mais j'écris dans Beer Magazine donc depuis 2010, et puis dans d'autres médias. Et puis juge international, alors ça rapporte pas d'argent, mais par contre ça me permet d'avoir une culture bière à travers le monde. Quand vous goûtez des bières dans les pays où elles sont produites, directement, si on prend la République tchèque par exemple, c'est autre chose que la bouteille qui arrive chez nous en France. Hein, il y a vraiment un goût hyper, hyper différent. Donc en Allemagne, pareil, etc. Et enfin, je suis aussi co-organisateur du France Beer Challenge, donc un concours de bière national qui existe depuis 2018. Quelques repères dans le monde. Petite question, voilà. Pour vous, alors si on enlève le café et le thé, quelle est la boisson la plus bue dans le monde, après l'eau? Alors malheureusement, c'est pas la bière. On aurait bien voulu. Hein, avant, il y a le Coca-Cola. Le Coca-Cola qui, quand même, est à 45 litres par an par habitant, hein, avec des champions du monde qui sont les Mexicains, qui sont à 110 litres par an par habitant, ce qui est énorme. Et la bière arrive après. Hein, c'est quand même 200 milliards de litres, mais ça fait donc 25 litres par an par habitant. Et si on compare enfin avec le vin, on tourne environ à 3 litres. Alors là, je me place toujours au niveau mondial, on est bien d'accord. Hein, on va voir après les chiffres en France, puisqu'on a un pays de vin avant tout. Le nombre de brasseries dans le monde, c'est des dizaines de milliers. Hein, c'est très compliqué d'avoir les chiffres. Quelques repères en France. On est avec, effectivement, les Italiens, les deux plus petits buveurs en Europe de bière, 33 litres. Comparé aux champions du monde, les Tchèques, qui sont au taquet, mais avec 145 litres, mais ils ne boivent quasiment que ça, ils ne boivent pas de vin. Peut-être un peu de spiritueux aussi, mais en tout cas, ils boivent essentiellement de la bière. Hein, pays où la bière est moins chère que le café et l'eau dans un bar. Nombre de brasseries en France estimé via le projet Amertume 2500, on va dire au moins 2500, puisque c'est sur déclaration, c'est déclaratif. Voilà. Et on voit avec cette courbe qu'effectivement, de façon exponentielle, le nombre de brasseries a explosé. Hein, en 1985, il restait, on va dire, une petite cinquantaine de brasseries, mais surtout des grosses brasseries, et plus de micro-brasseries. Ça, ce petit graphique, il est assez intéressant. Ça compare les consommations entre les années 1960 et 2020. Donc vous voyez qu'à l'époque, les Français buvaient beaucoup de vin. Hein, on était à 130 litres par an par habitant, ça paraît énorme. Aujourd'hui, on est plutôt autour des 45 litres. Donc il y a eu quand même une forte décrue, une consommation moindre au profit de la qualité. Alors que la bière, finalement, est presque stable. Hein, on était dans ces années-là autour de 39-40 litres et aujourd'hui, on est à 33 litres. Et puis, anecdotiquement, le cidre, du temps jaune, hein, qui est à 27 litres. Aujourd'hui, on est à 1 litre et demi, ce qui est très faible. Les spiritueux, ben, eux, sont restés constants dans le temps. Donc, on voit que le vin a baissé, la bière est toujours là. Sondage SoWine, si vous avez lu, effectivement, 2021-2022, la bière est la boisson préférée, la boisson alcoolique préférée des Français depuis 2 années consécutives. On a une offre immense entre 15 000 et 25 000 bières en France. Et le résultat, ben le résultat, il est là. Ben c'est qu'il n'y a pas de bière sur les tables des restaurants gastronomiques. Vous avez le verre à eau, le verre à vin, enfin, etc. Mais pas de verre à bière dans l'absolu qui est déjà prévu dès le départ, etc., etc. Donc on voit bien qu'il y a un manque. Il y a quelque chose qui est là, mais qu'on ne retrouve pas sur nos tables. Donc la question du jour, elle est bien là. Voilà. Pourquoi la bière ? Alors, je ne parle pas de la bière pour faire de la cuisine, mais la bière en tant que boisson d'accompagnement lors d'un repas ne se retrouve pas sur notre table gastronomique. C'est ça que je vais essayer de vous brosser. On va y aller dans le cœur du sujet. On va commencer par les atouts de la bière, ce qui devrait faire que la bière elle est là, et c'est pourquoi aussi on l'aime, on l'apprécie. Voilà, donc déjà, en premier lieu, il y a une palette aromatique hyper variée du fait des ingrédients de base, mais du fait, à différence du vin, qu'on peut rajouter ce qu'on veut dedans. Des racines, des fruits, des feuilles, des épices, enfin, etc. Déjà, de toute façon, de base, les levures, les maltes et les houblons apportent aussi leur contribution aromatique. Donc vous avez une palette qui est gigantesque, énorme. Vous pouvez rajouter avec ça un affinage en barrique, voire des assemblages. Donc vous avez... vous avez vraiment, c'est presque infini en fait. Donc vous avez vraiment un gros plus à ce niveau-là. Donc ce qui donne, en plus quand vous mélangez tout ça, hein, une complexité aromatique. Hein, si vous faites une bière avec des fruits, en plus passer en barrique, etc. Donc voilà, vous avez vraiment quelque chose d'assez important. Vous pouvez travailler sur 4 axes des saveurs, qui sont le sucré, l'acidité, l'amertume, et exceptionnellement le salé sur un style qui s'appelle la gauze. Donc ça vous donne de quoi jouer, si je suis chef, une combinatoire exceptionnelle avec les mets, puisque vous avez toute cette palette qui vous permet de faire des accords, j'irais, au millimètre, hyper intéressants. Un degré alcoolique modéré, donc ce qui permet dans l'absolu de boire non pas plus, mais plus différemment ou de façon variée pendant le repas, hein, de varier les plaisirs. Une diversité de l'offre de la bière à travers ses styles. Hein, les bières sont divisées en styles, donc on a, on va dire, officiellement, que ce soit dans le BJCP ou des choses dans ce genre-là, on va dire 100 de styles de base et autant de sous-styles, largement. Donc on a vraiment de quoi faire. Hein, y a plein de différenciations. Vous avez la pétillance qui va aider à absorber les aliments et aussi à la digestion. Donc ça, c'est aussi un gros plus, hein, qu'on ne retrouve pas dans le vin, sauf le champagne ou quelques vins pétillants. Et potentiellement un coût moindre pour le client. Normalement, une bouteille de bière est censée être moins chère que du vin. Vous voyez, vous avez vraiment un panel d'atouts important. C'est juste une petite cartographie des styles pour vous dire que voilà, la bière, c'est varié. La bière, c'est pas juste une blonde ou une pression. Hein, vaste débat, c'est plein de choses derrière, et avec à chaque fois une palette qui est associée à tout ça. Les freins, on a vu les atouts, mais il y a des freins, évidemment, sinon la bière elle serait déjà sur nos tables. Donc j'ai distingué 2 freins, des freins que j'appelle techniques, et bien après d'autres freins qu'on va voir ensuite par la suite. Les freins techniques, ça paraît pas, mais déjà la bière, elle se doit d'être stockée verticalement. Ça veut dire un peu de place, ça veut dire ranger différemment. Les bouteilles de vin peuvent se ranger de façon verticale. Horizontale, pardon. Une durée de vie courte de la bière. La durée de vie moyenne d'une bière, hein, ou la DDM, c'est 1 à 2 ans. C'est plus compliqué que ça en fonction des styles. Il y a quelques bières qui peuvent vieillir aussi. Alors que sur une étiquette de vin, il n'y a pas de date de fin. Bon, voilà. Donc... ça veut dire qu'au niveau du stock, il va falloir être vigilant. Donc, effectivement, c'est un frein. Les conditions de service. Quand un client veut une bière, il faut qu'elle soit déjà au frais. Quand je dis au frais, entre 5 et 10. Donc si elle est dans un endroit à 15 ou 20, on ne peut pas la servir. Donc ça veut dire qu'il faut être un peu en mode anticipatif. Et une fois de plus, au frais, mais vertical, une fois de plus. Donc ça veut dire qu'il faut quelque chose de réfrigéré, il faut que ce soit prévu. C'est un peu de logistique supplémentaire. Donc c'est encore un frein. Un risque de gushing, malheureusement, j'ai déjà entendu dans un chef étoilé qui me dit « Ah oui, la bière, ce produit qu'on ouvre à côté du client et on en met partout, surtout si c'est une bière brune, une porter, etc. » Bon, en effet, donc là, c'est le travail du brasseur de produire des bières qui ne vont pas faire cet effet, mais on ouvre une bouteille à côté du client en restauration. Donc, voilà, ça, c'est un frein qui ne devrait pas en être un, mais qui arrive malheureusement. C'est classique et là, c'est l'horreur. La gestion de la verrerie, c'est important. Les verres et la bière, c'est aussi important. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir normalement d'autres verres en stock. Donc, ça veut dire un peu plus de volume, etc. Les conditions de dégustation de la bière dans le verre, une bière a vocation à se boire, on va dire, je fais une généralité, assez fraîche, et elle se réchauffe. Et en se réchauffant, si on prend une pils, une pils qui est chaude ou tiède, c'est pas spécialement terrible. Donc, il y a cet aspect-là des choses, alors que le vin, lui, en se réchauffant, peut un peu se bonifier aromatiquement parlant, etc. Voir la bouteille qu'on vous laisse à côté entamée, qu'elle aussi va se réchauffer. On ne sert pas de bière au verre. On pourrait à la pression, mais sur une table gastronomique, service à la pression, on l'oublie. Et il y a la variabilité des styles, des lots. Alors, je m'explique. Et on verra après que ça a son incidence. Si vous prenez un style, on va prendre une triple, un style emblématique, fait par la brasserie A et la brasserie B, il aura des points communs, mais il va quand même être différent à un moment. Et à la limite, même la même bière, le côté répétitif, la bière de la brasserie A, lot 1, lot 2, peut être différente. Donc ça, c'est aussi un frein. Parce que vous n'êtes pas sûr. Alors normalement, on devrait être sûr. C'est-à-dire que si le brasseur fait son travail de qualité, la bière va être la même d'un lot à l'autre. Mais il y a cette variabilité qui peut poser problème. Ça, ce sont les freins techniques. Il y a d'autres freins, plus importants à mon sens, qui sont l'image malheureusement négative de la bière. On essaye tous, chacun à son niveau, d'expliquer que c'est un produit du terroir, emblématique, issu de la terre, avec des ingrédients propres, de l'agriculture, etc. Mais bon, malheureusement, l'image, elle est encore collée avec la canette du SDF, avec le joueur de foot et sa pizza devant la télé, etc. Donc pas du tout à un côté gastronomique. Économique, là, il n'y a pas de restaurateur peut-être dans la salle, mais voilà, est-ce que la marge est intéressante de vendre des bières dans un restaurant gastronomique plutôt qu'une bouteille de vin à des dizaines d'euros, voire des centaines d'euros? Donc ça, c'est, je pense, un frein non négligeable, mais là-dessus, j'ai pas trop de réponses. C'est une sorte de présomption. Et puis, vous voyez, les couleurs vont se foncer. Ce qu'on attaque pour moi, le cœur du sujet, là où il y a une grosse problématique, c'est la méconnaissance du produit. Quand vous prenez toute la filière, je veux dire du serveur jusqu'au chef, la bière est très méconnue. Enfin, elle n'est pas connue du tout. Et quand vous connaissez pas un produit, vous avez du mal à la vendre, à l'expliquer, à la mettre sur la table. Et globalement, je dirais que c'est un manque de formation. Quand vous prenez les cursus à tout niveau de l'hôtellerie, de la restauration, si vous avez, un cursus de 500 heures, vous allez avoir quoi? Allez, une journée ou deux sur la bière, dans le meilleur des cas, et qui plus est, qui va être enseigné par des gens qui ne sont même pas du milieu de la bière. Ça va être l'enseignant qui fait du vin, puis il aime bien la bière, et puis en avant. Je ne sais pas ce qu'il va raconter, sans doute pas trop de grosses bêtises. Mais il ne va pas avoir à la fois cette passion et cette précision d'expliquer différentes choses. Et surtout, pas assez de temps de toute façon aussi. Donc là, on vient de faire les atouts d'un côté, les freins techniques, les autres freins. Et puis ici, c'est une série de propositions pour essayer d'améliorer la donne, d'essayer de faire que notre bière qu'on aime bien, on la retrouve effectivement dans ces fameux restaurants dits de gastronomie. Voilà, alors déjà il y a le service de la bière. Je vais juste, par exemple, En Italie, il y a 10 ans, il a été créé ce verre, le Tecu, qui est très joli. Et quand vous allez dans certains restaurants italiens et on vous sert de la bière, on vous le sert dans ce verre et à des quantités limitées, comme du vin en fait. C'est pas parce que c'est une bière qu'on doit vous servir 25 ou 33 centilitres pendant que vous mangez. Et ce qui permet en plus après de changer de bière, etc. Donc il y a un effort à faire sur le service à travers la verrerie, la quantité à servir. Peut-être plus des grandes bouteilles et les mettre au frais, comme on mettrait du champagne, un vin blanc, enfin, je veux dire, dans quelque chose qui va maintenir le froid. Hein. Servir, entre guillemets, comme du vin. C'est une première piste. Forcément, la formation, je vais y revenir, plus développée à tous les échelons, en nombre d'heures. Il faut que là-dessus, il y ait une grosse poussée, parce que c'est là la problématique, en fait. Hein. Des formations professionnelles mais par des acteurs confirmés, donc des biérologues, des œnologues, des experts, et pas des gens qui arrivent par hasard parce qu'ils font du vin ou autre chose, ou parce que voilà. Donc il faut vraiment laisser faire les professionnels, il y en a de plus en plus, qui vont pouvoir expliquer réellement c'est quoi la bière, ce que ça peut apporter dans ces fameux accords bières aimées. Donc il y a vraiment là-dessus quelque chose à faire d'important. Par quel biais, c'est ça qui est compliqué. Hein. Ce qui permettra plus tard de bâtir une carte de bière réfléchie, et pas juste la bière qui vient de la personne du coin, ou etc. Il faut réfléchir à sa carte comme les gens réfléchissent à leur carte du vin. Et que le serveur, le sommelier, etc., sache conseiller. Hein. Proposer. Et ça part déjà de connaître la bière, mais aussi ce qu'on a dans sa carte. Et carrément, plus tard, comme on voit dans certains restaurants, proposer donc les menus avec leurs accords associés. Pour la petite histoire, à la Fine Mousse, qui avait donc un restaurant, on va dire, gastronomique, accords bières aimées, ferme ses portes ce jour, aujourd'hui, à Paris. Donc on voit qu'on est à Paris, qu'il y avait un établissement qui faisait ça, il vient de fermer. Donc vraiment, on sent que c'est compliqué d'arriver à aller plus loin, à convaincre les gens. Une promotion de la bière qui me paraît importante auprès des instances culinaires. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait des gens, des biérologues, qui puissent s'insérer. Là aussi, je ne sais pas par quel biais, mais pour expliquer ce qu'est la bière. Et pas un biérologue, mais des biérologues. Parce que chacun a peut-être sa façon de voir, sa façon de faire. Il y a des gens plus jeunes, plus âgés, plus ceci, plus cela. Donc pour apporter plusieurs visions. Et pas une vision qui des fois est unique, parce qu'il y a juste 2-3 personnes qui sont reconnues dans le monde de la bière pour expliquer un peu ce qu'est la bière. Et puis les associations de brasseurs, à mon avis, elles ont déjà beaucoup de travail, mais elles devraient essayer aussi d'aller vers ces associations culinaires, ces groupements culinaires, pour mettre en valeur la bière, puisque quelque part, plus la bière sera reconnue et en plus avec ses lettres de noblesse, plus la bière sera vendue, etc. etc. C'est une démarche à faire. Parce qu'effectivement, en tant qu'individu, biérologue, œnologue, etc., c'est difficile de rentrer dans ces cercles assez fermés de cuisine, de restauration. Hein, alors que les syndicats, on pourrait en tout cas imaginer qu'ils aient un peu plus de pouvoir, de façon de faire, pour mettre un petit pied à l'étrier sur cette affaire. Les brasseurs aussi ont leur rôle. J'ai trop vu souvent le brasseur qui arrivait à convaincre un chef dans un restaurant de prendre ses bières. Mais le travail ne s'arrête pas là. Si vous faites ça, ok, vous allez vendre un carton, 2 cartons, soyons fous, une palette. Mais si vous n'expliquez pas c'est quoi votre bière ou vos bières, avec quoi elles vont aller, s'il n'y a pas un accompagnement, ça va vite s'arrêter. Vous aurez fait un joli coup une fois, 2 fois, mais ça va s'arrêter. Donc là aussi, il y a un accompagnement à faire. Soit le brasseur, il est capable, et certains le sont, d'expliquer et d'aller au-delà, de venir, de proposer des choses peut-être sur les plats. Soit, une fois de plus, de faire un binôme avec un biérologue, et d'expliquer et d'aller plus loin, y compris. Et quand on fait une formation, c'est pas que le chef, c'est tout le service. Il faut que tout le monde soit empreint de ça et soit capable de le vendre et se sente suffisamment légitime vis-à-vis du client pour lui expliquer c'est quoi, qu'est-ce que ça apporte, etc. Pourquoi il va prendre plutôt un accompagnement avec des bières que du vin. Voilà, j'en ai fini. Bon, j'ai peut-être été un peu vite au pas de charge. Si vous avez des questions, je suis là pour essayer d'y répondre dans la mesure du possible.
Merci beaucoup pour cette présentation à la fois dense et documentée, très largement documentée. C'est bien, ça a été fait avec l'intelligence artificielle, ces dessins, là, parce qu'on en a parlé hier soir.
Non, c'est une peinture qui est chez moi.
Ah ben, elle est sympa, elle va bien. Elle va bien. Je voulais juste profiter de cette présentation-là, seulement celle-là, pour qu'on ait une toute petite pensée pour le premier biérologue de France dans l'histoire, Hervé Marzioux, j'ai pas dit le plus grand, mais parce qu'il n'est pas si grand ça, qui ne peut pas être parmi nous aujourd'hui, mais qui le fidèle, il est avec nous depuis les origines ou presque de nos salons, et qui s'est un petit peu fait mal et qui n'a pas pu voyager pour nous retrouver aujourd'hui. C'est juste une petite pensée parce qu'il nous a souvent parlé de ces sujets et avec une dimension très 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 différente. Hein, c'est pour ça que c'est tout à fait intéressant. Quelques questions qui viennent vous titiller derrière cette approche-là, bien sûr. Je répète, mettez bien contre le menton, s'il vous plaît, merci.
Bonjour, merci pour la présentation et d'aborder ce sujet qui est très intéressant. J'en reviens sur les propositions au niveau de la taille du conditionnement. On a vu que le taux d'alcool de la bière est plus faible par rapport au vin. Donc on pourrait boire théoriquement 2 à 3 fois plus de bière que de vin sans être dans un taux d'alcoolémie important. Moi, la réflexion que j'avais eue, c'était est-ce qu'il ne faudrait pas avoir des plus petits conditionnements? Et là, vous nous proposez des grandes bouteilles servies au verre.
Oui, parce que tout est envisageable, mais effectivement, bon, même si on parle d'un petit conditionnement, 33 centilitres, c'est déjà grand. L'idée, c'est plus à une table avec 3-4 personnes, voilà, d'avoir la bouteille de 75, de verser 10 centilitres, 15 centilitres maximum pour pouvoir déguster hein, dans ce verre ou d'autres, mais en tout cas très aromatique, très ouvert. Et puis après, de passer à une autre bouteille sur autre chose, un peu en séquentialité avec chaque plat. Quoi. C'est pour ça que je parle plus d'un grand conditionnement qui, en plus de pouvoir être gardé dans un seau à champagne au frais, bon, voilà, c'est un peu ça l'idée.
Bien sûr. J'arrive. Patrick, d'abord.
Merci. Ouais, déjà, bravo pour cette félicitation, cette présentation. Tu parlais à l'instant des grands conditionnements, mais le problème des grands conditionnements, c'est pour les bières refermentées en bouteille, parce que tu vas servir le premier verre, tu vas avoir quelque chose de limpide, et après, très vite, tu risques d'avoir la levure qui remonte et avoir du trouble. Et pour les tables gastronomiques, je suis pas sûr que ça soit trop idéal.
Ouais, juste remarque, ici on attaque aussi peut-être un frein technique. Effectivement, les bières, je vais dire, trop artisanales, entre guillemets, c'est un peu ironique, où vous avez effectivement 2 ou 3 cm de dépôt au fond. Ça, pour moi, c'est pas bon. Enfin, il faut arriver quand même à être modéré. Je veux bien qu'elle soit artisanale, mais de plus en plus de brasseurs sont dans la centrifugation, et ça me paraît pas mal, où effectivement, il reste beaucoup moins. Je suis d'accord que il peut y avoir un reste de fond. Donc, c'est à prendre en compte. La présentation sert aussi à ça. Moi, je veux aussi capter des échanges, des idées. Voilà. Mais je pense qu'il faut être sur des produits voilà, artisanaux, mais maîtrisés. Hein, centrifugation, ou en tout cas, le petit centimètre, mais pas les 3 centimètres. Et même dès qu'on attaque la moitié de la bouteille, il commence à y avoir des voltigeurs, comme on dit. Donc, c'est à faire attention, et c'est ça qui peut rebuter aussi d'ailleurs des restaurateurs. Il faut que ce soit une bière pas full filtrée, hein, mais artisanale, mais maîtrisée, je dirais.
Merci pour cet éclairage. Une question par ici, bien près du menton.
Oui, moi je voulais vous demander par rapport à... Donc vous avez dit pour le service que ça posait problème d'utiliser la pression, donc de servir au verre. Est-ce que vous pouvez détailler un peu?
Quand j'ai dit que c'est un problème, déjà la restauration c'est compliqué, donc j'imagine mal, hein, de toute façon, un restaurant de haute volée, on va dire, avoir un service à la pression sur de la bière artisanale. Déjà, il n'y aurait pas assez de débit dans l'absolu, à moins de faire des mini-fûts peut-être de 5 litres, mais sinon c'est no way. Donc la bière, au bout d'une semaine, 10 jours en fût en inox, elle sera morte. Donc, et puis c'est du boulot, ça veut dire savoir aussi faire un service. Donc ça me paraît, ce sera un autre frein trop complexe. La bière à la pression, c'est hyper intéressant, mais trop complexe dans ce cadre-là. Déjà que c'est compliqué d'arriver à la faire venir dans les restaurants gastronomiques. C'est pour ça que ça, c'est genre, j'exclus déjà d'office. Si un jour ça se fait, tant mieux. Mais après, c'est quelqu'un qui... j'ai pas parlé de Florent Ladène dans le Nord, qui a sa petite microbrasserie. Carrément, là où c'est le chef qui aime la bière, et c'est une autre dimension après. Mais dans un établissement classique, mais étoilé ou pas, ça me paraît vraiment très très compliqué, le service à la pression.
Merci pour cette réponse. Une question ici, supplémentaire, bien sûr, bien près du menton. Contre.
Merci Hervé pour cette présentation. Alors moi, c'est pas vraiment une question, ça serait plus une proposition technique. Je sais pas si ça existe, mais imaginons une petite armoire réfrigérée dans laquelle on met les bouteilles pour les garder à la bonne température de service. Alors déjà, on pourrait avoir plusieurs températures, plusieurs cloisonnements en fonction des styles. Et une fois qu'une bouteille est entamée, vu qu'on fait le service au verre, parce que c'est bien une grande bouteille, mais il faut que tous les convives acceptent de boire de la bière, on pourrait imaginer un système qui permettrait de faire le vide pour supprimer finalement l'air présent dans la bouteille et de réinjecter du CO2 en contre-pression juste pour éviter que le produit se dégaze. Mm-hmm. Ça n'existe pas. Dans le vin, je sais qu'ils ont ce...
Non, il existe des armoires, comme tu exprimes, qui existent en Allemagne, d'autres endroits, effectivement, par étage de chaleur de ceci, de cela, de conservation, donc prête à l'emploi. Après, une bière, la remettre du CO2, du machin, faire le vide. Non, je connais pas déjà, mais j'y crois pas trop non plus. Il y aura de la perte au feu et c'est aussi compliqué. Et là, si la bouteille vaut 5, 10, 15 euros, c'est beaucoup de complications, une fois de plus, à un équipement supplémentaire. Donc, il faut faire simple. Donc, il faut éviter déjà... Vous avez déjà plein de freins. Donc, si on en rajoute... Donc, je pense que ça n'existe pas. Je pense pas. Il n'y a pas réellement de nécessité, quoi.
Mais il y a des inventeurs dans le salon. Il y a des gens qui sont venus hier présenter des trucs assez extraordinaires et certains ont été récompensés dans le cadre de Brassinov. Cette idée-là, il faut peut-être y penser un petit peu. Peut-être qu'il y a des moyens de faire sans que ça devienne l'usine à gaz. Bah si, gaz carbonique. pour qu'on puisse avancer. Tu voulais ajouter quelque chose ? Bien sûr.
Je ne sais pas pour toi quels sont ou l'axe majeur qu'il faudrait développer, mais par rapport à ta présentation, la réflexion que j'ai, c'est est-ce que justement les syndicats pourraient pas, avec l'aide des éthologues, faire une petite revue ou une petite plaquette pour aider les brasseurs et aussi les restaurateurs à présenter les qualités de la bière en général.
Bah, ça pourrait, enfin, c'est pour ça que c'est une de mes propositions, mais être un axe de développement des deux associations, effectivement le SNBI, les Brasseurs de France, avec l'aide de quelques biérologues, éthologues, d'essayer d'expliquer, alors ça peut être aussi à travers des conférences, des présentations, une plaquette auprès des restaurateurs, donc des restaurateurs à travers des collèges culinaires ou des choses comme ça. Et avec une démonstration, je pense, pratique. C'est-à-dire, il y a des plats qui sont là. Il faut faire des choses concrètes. Parce qu'on peut expliquer tout ce qu'on veut, mais tant que les gens n'ont pas perçu ce que ça peut apporter en termes d'association organoleptique et tout ça. Voilà. Mais oui, c'est un peu l'idée. C'est les deux vecteurs, ça pourrait être, c'est pas que, mais en tout cas, les deux associations, les deux devraient aider, quoi.
Il y a quelques semaines, le Musée français de la brasserie a organisé un colloque autour de l'histoire des bières. Et il y a une petite pause, repas le soir, où on a mis en œuvre ce que tu es en train d'expliquer, c'est-à-dire des plats et des bières toutes différentes pour accompagner les gens. Et effectivement, comme on était nombreux, on pouvait ouvrir de nombreuses canettes sans problème et il n'y a pas eu beaucoup de gaspillage, ou pratiquement pas. Et ça permet de faire les choses. La question que j'ai entendue tout à l'heure, et il y en a qui ne boivent pas de bière, donc qui forcément ne rentrent pas dans le circuit, c'est un élément important. Une question supplémentaire, en tout cas. Ah oui, on reste. On a encore quelques minutes devant nous, même plusieurs. Bien prêt.
Merci, bonjour. Vous nous faites part du déficit d'image, de la méconnaissance des codes. De la bière, la formation, enfin, c'est un ensemble multifactoriel, mais néanmoins un potentiel réel. De par votre expérience et votre accompagnement, est-ce que vous auriez, pourriez nous faire part d'une success story de quelqu'un qui a réussi à pénétrer ce marché de la bistronomie, gastronomie ou des étoilés? Quelle typologie de bière? Est-ce que c'était des bières en barrique? Je vois mal une bière Lager d'entrée de gamme.
C'est clair.
Rentrer dans ce schéma-là. On va peut-être sur des choses de spécialité très travaillées. Est-ce que vous auriez un exemple qui vous viendrait à l'esprit?
Un exemple, je vous ai parlé de Florent Laden, mais il a carrément créé sa micro-brasserie. Donc, il propose effectivement des choses à ce niveau-là. On voit que la fine mousse, ça a duré quand même de nombreuses années. Alors, ça n'est pas complètement fermé dans le sens où ils vont garder un bar où ils feront, c'est-à-dire que la personne va prendre des apéritifs, des tapas ou je ne sais quoi, enfin en tout cas, et on leur proposera quelque chose. Mais ce n'est pas un menu qui est complètement entrée, plat, dessert, et on vous recommande. Je n'ai pas allé non plus, malheureusement, dans votre sens, il y a eu un restaurant étoilé à New York qui faisait ce genre de choses. Il n'y avait même pas de vin dans ce restaurant. C'était 5-7 services avec effectivement que des plats accompagnés au millimètre, etc. Mais j'ai pas trop d'exemples, je cherche souvent. Alors peut-être des gens, quelqu'un va pouvoir me dire oui, mais là, à tel endroit, il y a ça, mais ça reste réellement compliqué. Il y a peut-être quelques exemples en Belgique, j'ai échangé hier avec un Belge, mais ça reste anecdotique, quoi.